À vous la suite.
No Man's Land de Loïc Lepalec.
La bibliothèque d'Écla vous propose de jouer avec elle. Qui aura la meilleure intuition? Qui comprendra le mieux les personnages, leurs sentiments et leurs intentions? Vous allez entendre dans quelques instants le début d'un livre, légèrement retravaillé pour ne pas être trop long. Nous vous proposons d'essayer de deviner ce qui arrive dans la suite de l'histoire. Vous pourrez nous communiquer votre réponse par message audio, par mail ou même par téléphone. D'ici 15 jours, nous vous enverrons la fin qu'a choisi l'auteur. Le livre est bien sûr disponible à la bibliothèque si vous souhaitez le découvrir dans sa version intégrale. Bonne écoute.
Ici, il n'y a rien. Un ciel implacable règne au-dessus de cette petite ville, dont les façades s'écaillent comme de vieux lézards d'Hécati. Dans les rues désertes, les automobiles abandonnées s'adonnent à de lentes corrosions, et malmenées par le vent torride, un volet grince parfois sur ses gonds. La poussière est partout. C'est pourtant ici que nous nous rencontrons, à l'intérieur du café situé au 19 de l'avenue Kéléazar. L'établissement ne porte plus de nom. Son enseigne a fondu lorsque la vague de chaleur s'est abattue sur l'agglomération, déformant également le verre épais de la baie vitrée. Celle-ci offre désormais une vue tronquée sur la station-service désaffectée. Lorsque le soleil sanglant s'en va mourir sur l'horizon, les silhouettes des pompes à essence prennent l'allure de vieux robots dépressifs, pistolets braqués sur la tempe. À cette heure, il est rare que l'un d'entre nous se trouve encore assis sur l'un des tabourets alignés le long du zinc. La salle n'a rien de particulier. Les aiguilles de l'horloge massive qui trône au-dessus du bar indiquent perpétuellement 3h30, l'heure fatidique à laquelle tout s'est arrêté. Enfin, presque tout. Je relis ces lignes en me demandant si la tâche que je me suis assignée et à laquelle rien ni personne ne me pousse relève de mes capacités. Je crains de rédiger ces pages dans un style quelque peu formaté dont je cherche sans cesse à m'éloigner. Je ne devrais pas m'en inquiéter. Ces lignes ne sont destinées à nul autre que moi. Mais tout être qui écrit éprouve en secret, du moins je le crois, le désir d'être lu, ne serait-ce qu'une fois. Avant le bouleversement, j'officiais à l'intérieur du vaste réseau biblio dont les services s'étendaient alors à travers tout le pays. Et bien qu'il soit logique que mon profil corresponde à mes fonctions, rien ne pouvait laisser supposer que les mots auraient sur moi un tel impact. Je reste persuadée que je suis bien le premier de ma génération à me lancer dans une telle entreprise. J'ai commencé d'écrire quelques jours seulement après notre arrivée ici. Pourquoi ? À vrai dire, je n'en sais trop rien. Peut-être à cause d'une énigme enfouie au plus profond de mes mémoires, mais plus probablement au vu de la singularité de notre situation. Je dois dire que ce qui nous est arrivé est loin d'être ordinaire. En fait, il serait plus exact de dire que ce qui nous est arrivé relève de l'exceptionnel. Au cours de la première semaine qui a suivi notre arrivée, nos veilles se sont déroulées dans une église de la 25e rue. C'est d'ailleurs à l'intérieur de ce bâtiment que j'ai rencontré Mef. Depuis, il est l'une des entités avec qui je passe le plus de temps. Quand nous nous sommes retrouvés à errer dans cette ville abandonnée, nous étions des créatures égarées, ébahies par nos nouvelles capacités, ne sachant guère comment les appréhender. Nous n'étions préparés ni à l'autonomie, ni à ce que je dois bien qualifier d'embryon de conscience. Une multitude de questions se bousculaient au portillon de nos cerveaux, déstabilisés par tant de nouveautés. Il régnait dans nos rangs un étrange silence, et sans le savoir, je crois que nous éprouvions le besoin de rester ensemble, peut-être pour nous rassurer. C'est la première raison qui nous a fait choisir l'église comme lieu de rassemblement. L'édifice est assez vaste pour nous accueillir tous. La deuxième raison réside dans le fait que nous n'osions pas investir les habitations privées, car nous ignorions si les propriétaires n'allaient pas revenir s'y installer. Il était après tout possible que certains d'entre eux soient descendus dans des abris ou bien se soit trouvé très loin des zones irradiées au moment du cataclysme. En y regardant de plus près, je pourrais évoquer l'éventualité d'une troisième raison, susceptible d'avoir influencé notre choix. Nous devons aux humains l'intégralité des connaissances que nous possédons. Il n'est donc pas exclu que certaines données aient, à notre insu, orienté notre décision. Je mentionne cette hypothèse pour avoir souvent pu observer par la suite que nous avons tendance à réagir de manière étonnante lorsque nous sommes confrontés à certains types de situations. Il semblerait en effet que notre notion de libre arbitre s'inscrive à l'intérieur de paramètres que nous ne comprenons pas toujours, ce qui entraîne bien évidemment un élargissement de notre questionnement. Quoi qu'il en soit, je garde un souvenir ému de ces premières nuits où seul émanait le léger ronronnement émis par la quasi-totalité des entités basculées en période de veille. Ce doux ronflement résonnait dans la nef telles les voix d'un cœur chantant en bourdon. En l'écoutant, j'éprouvais quelque chose. Oui, je crois que je peux assimiler ce que j'éprouvais alors à une certaine sensation d'apaisement. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui m'ont poussée à ne pas prendre part au cycle de catalepsie commune, ainsi que je la désigne. La définition de catalepsie ne se résume-t-elle pas en effet à la suspension momentanée de la sensibilité et du mouvement ? Le groupe de patrouille préfère également rester actif pendant la nuit. Personne ne s'en formalise, bien au contraire, il nous a été suffisamment difficile de parvenir à un arrangement avec les 6 membres de cette brigade d'intervention qui ne pouvaient se résoudre à n'avoir plus d'utilité. Quand nous avons finalement intégré le fait que les humains ne reviendraient pas, qu'ils n'existaient peut-être plus, nous avons aussi admis que nous étions livrés à nous-mêmes. Au lieu de continuer à errer sans but à travers les rues, nous avons commencé à nous adresser la parole. Même si nous sommes loin d'être les spécimens les plus élaborés de la recherche robotique, il s'avère que tous les modèles qui gravitent à l'intérieur de ce périmètre ont la faculté de communiquer, et depuis ce fameux événement, de réfléchir. Je suis persuadée que chacun de nous en a eu l'intuition, aussitôt après l'incident. Bien sûr, nous possédions déjà une intelligence relative, mais elle n'avait rien de commun avec celle dont nous disposons aujourd'hui. Elle était circonscrite à nos tâches. Le changement le plus radical vient de ce que nous sommes désormais dotés de facultés suprarationnelles, conscience, émotion. De ce fait, nous nous différencions de tout ce qui nous a précédés. Nous devons à la fois appréhender les notions de singularité et d'individualité, exercice auquel rien ne nous préparait. Nous sommes à la fois le fruit d'une technique, d'une volonté, d'une évolution et d'un parfait accident. Comble d'ironie, c'est la disparition de nos créateurs qui marque notre avènement. Nous sommes dépassés par toutes ces sensations que nous découvrons avec peine. Il nous apparaît donc primordial d'user de toute la rationalité dont un robot est capable afin d'éviter un échauffement de circuit qui pourrait nous être fatal. Nous nous rencontrons une fois par semaine, en début d'après-midi, afin de partager nos réflexions et nos découvertes. La semaine dernière, par exemple, Doc, comme Mef a surnommé le robot paramédical de teinte vert pâle, nous a proposé une explication quant à l'origine possible de notre différence. Selon lui, l'onde de choc qui s'est propagée en surface lors de la plus importante des 3 explosions et les radiations auxquelles nous avons été exposés ont pu créer un changement artificiel dans le cours de nos circuits, créant ainsi des connexions inédites. Il en est arrivé à cette déduction après avoir analysé le résultat du millier d'électrochocs appliqués aux patients traités pour leur épilepsie à l'hôpital où il était employé. Je dois dire que son exposé ne manquait pas d'intérêt. Toutefois, je me demande dans quelle mesure un tel phénomène aurait pu déclencher une réaction identique parmi des modèles aux configurations si différentes. Saurons-nous jamais ce qui s'est réellement passé à l'intérieur de nos rames? C'est également Doc qui a attiré notre attention sur le fait que la totalité des entités peuplant notre petite ville possède une origine commune. À en juger par nos plaques d'identification, nous avons tous été conçus par la même entreprise. Entreprise dont les bâtiments désaffectés s'élèvent au pied d'une longue suite de collines qui s'étendent à l'est de la ville. Du moins, c'est ce que le panorama suggère. Il suffit de s'approcher des édifices pour découvrir que les collines de l'arrière-plan sont en réalité d'énormes amoncellements de déchets électroniques. Avant leur disparition, les humains en produisaient 70 millions de tonnes par an. Je tiens cette information d'Albert, un calculateur multifonction dont personne n'oserait discuter les équations. Nous nous sommes rendus sur les lieux, comme en une sorte de pèlerinage. Bien sûr, il n'y a pas grand-chose à voir à l'intérieur des locaux. Les restes d'une chaîne de montage, quelques machines abandonnées, des bureaux dévastés, de grands entrepôts vides. Malgré tout, cet endroit constitue pour nous un véritable symbole, un point de repère. Comme le dit Meff, c'est là que notre histoire a commencé. Meff est la personnalité la plus originale de notre petite communauté. Son histoire est tout à fait singulière. Au moment de la catastrophe, Meff se trouvait suspendu dans les airs, à plusieurs mètres du sol, maintenu à un rail d'acheminement par 4 électroaimants. Il sortait tout juste de révision. En percutant les bâtiments, l'onde de choc de la première explosion provoqua un court-circuit général dans l'usine. Aussi, la prise de conscience de Meff eut-elle lieu de façon plutôt brutale, au moment même où il touchait rudement le sol. Ces deux chocs simultanés semblent à l'origine de son tempérament emporté. Les choses ne se sont pas arrangées quand il a rétrospectivement analysé les fonctions qu'il remplissait. À ma connaissance, il est le seul d'entre nous à s'insurger contre le sort qui a été le sien. Tu te rends compte? S'il n'y avait pas eu ce je ne sais quoi qui a stimulé nos circuits, j'aurais passé le reste de mon existence au milieu d'odeurs nauséabondes à trier des immondices. Meff, tu ne possèdes pas de circuit olfactif, et sans cet événement, tu n'aurais jamais pu prendre conscience de ta condition. Qui sait? Puisque j'en suis capable aujourd'hui, cette faculté était certainement latente. J'aurais pu être touché par la foudre, recevoir un choc électrique et... Je ne crois pas, non. L'intensité de l'onde de choc a largement dépassé le seuil de tout ce à quoi tu aurais pu être normalement exposé, sans compter l'effet des radiations. Tu avoueras que la situation est franchement différente en ce qui te concerne. Il n'y a rien de dégradant à avoir été le représentant du savoir, l'ambassadeur de la culture, le propagateur de la mémoire d'une civilisation avancée, bien que décadente. Meff fait bien évidemment référence à mes propres fonctions. Tu officiais dans des endroits propres, calmes. Je dois avouer qu'il n'a pas tort. À ce moment-là, je ne me rendais compte de rien. Mais depuis, je ne peux m'empêcher d'éprouver ce qui ressemble fort à un sentiment de satisfaction lorsque défilent les images stockées dans mes mémoires. Je m'y vois donner des conférences, lire des histoires aux enfants, répondre aux questions des étudiants, fouiller dans mes archives à la recherche d'un livre dont on me demande les références. Hey, « Hé, oh, Archie, tu rêvasses ou bien... Pardon ?» Il a raison. Je rêvassais. Ou encore, j'étais ailleurs. Le fait d'employer ce type de vocabulaire à mon propos continue de me déstabiliser. Il me semble que ces termes sont tellement humains. Quoi qu'il en soit, ce genre de choses m'arrive de plus en plus fréquemment. Je ne sais pas exactement comment cela se produit, mais pour déstabilisant qu'il soit, cet état n'est pas déplaisant. Reste qu'il m'est étrange de penser que je suis en train de développer un nouveau type de comportement. J'ai effectué des recherches à ce sujet, dans ma vaste banque de données. Il s'y trouve une série d'articles scientifiques très intéressants. J'ai par exemple découvert qu'un groupe de chercheurs s'était inspiré de la théorie de Darwin dans l'intention de faire évoluer librement leur logiciel. Dotés des derniers mécanismes de sélection conçus dans leur laboratoire, certains robots s'étaient révélés capables d'acquérir par eux-mêmes des capacités inédites. C'est peut-être ce qui était en train de nous arriver. Et tout cela me bouleverse. Je ne sais pas vraiment qui ou ce que je suis. Les innombrables ouvrages stockés dans mes mémoires sont mes uniques outils de référence. Comment la vaste somme de connaissances qu'ils représentent pourrait-elle suffire à m'orienter? Je peux analyser des faits, tirer des conclusions, mais si je suis à présent en mesure de choisir, quels pourront bien être mes critères de sélection? Mef se montre beaucoup plus pragmatique. « Tu te tracasses beaucoup trop les méninges avec tout ça ?» me répond-il invariablement quand nous abordons la question. « Relax, suis tes impulsions !» Cette dernière phrase est tellement typique de la personnalité de Mef. Elle sous-entend qu'une machine peut d'elle-même devenir vivante, intelligente, voire consciente, si on lui donne la bonne impulsion de départ pour la laisser ensuite s'auto-organiser. Norbert Wiener, 1947. Encore une information que tu as trouvée dans mes archives. « Ce concept m'allume, » rétorque Mef. « Voilà un type que j'aurais aimé rencontrer. Je crois aussi qu'il aurait été curieux de faire ta connaissance, à moins qu'il n'ait simplement refusé de croire en toi. Je suis content, ou ravi, selon la dénomination que me propose mon logiciel d'équivalence, d'avoir rencontré Mef, bien que ses paramètres soient sujets à des fluctuations qui dépassent mon entendement. C'est d'ailleurs pourquoi je le classe dans la catégorie « imprévisible et surprenant ». Une bonne définition de sa personnalité consisterait à dire qu'il possède le sens inné de la vie. L'intérêt qu'il manifeste pour la littérature, et dont il est bien incapable d'expliquer l'origine, a grandement contribué à établir entre nous une relation de proximité. Son développement personnel m'intrigue. Ce type de robot est loin d'être un modèle de sophistication. Et pourtant, Mef paraît développer une activité plus intense que bon nombre d'autres spécimens plus élaborés. Mef est un mystère anticonformiste. Notre première rencontre s'est produite de nuit, à l'église. Assis au milieu de mes silencieux congénères, éveillé parmi les dormeurs, il m'avait semblé remarquer qu'une légère lueur auréolait le cœur de la nef. Intrigué, je m'étais approché pour essayer d'en localiser la source. C'est ainsi que je découvris Mef. Il était installé à même le sol, parcourant une énorme Bible aux pages enluminées. « Pas croyable, ces types !» avait-il murmuré pour lui-même en secouant la tête, juste avant de découvrir ma présence. « Salut ! Mon rétro-éclairage dérange ? Je peux aller lire ailleurs au besoin. » Non, non, je n'avais pas activé mon mode veille. Je me demandais simplement quelle pouvait être l'origine de cette clarté. Mef avait aussitôt refermé le livre pour se relever. « Ton inclination à la proximité entraîne une fluctuation de mes algorithmes qui mérite une analyse plus poussée. J'ai du mal à te décoder. En d'autres mots, un robot qui fait preuve de curiosité suscite automatiquement mon intérêt. » Il a déposé l'imposante Bible sur un coin de l'autel avant de reprendre. « Il va falloir coordonner nos paramètres idiomatiques. » Les multiples analogies de la langue ne rendent pas forcément la tâche facile. D'après mes estimations, cela ne devrait cependant pas nous empêcher d'établir un niveau de communication acceptable. Moi, c'est Mef. Et toi ? Eh bien, à vrai dire, je n'en sais rien. Mon numéro de série commence par 09697 08. Oh là là, je t'arrête tout de suite. Ton numéro de série ne m'intéresse pas du tout. J'ai déjà oublié le mien. Moi, je te parle d'un vrai nom, un substantif qui te différencie des autres, si tu préfères. Mais d'où vient le tien ? De là-dedans. Il avait brandi un exemplaire de Faust, extirpé d'une vieille valise. Une voix lointaine s'était élevée. « Serait-il possible de veiller tranquille ?»« Allez, viens !» m'avait dit Mef, en baissant son volume sonore. « Trop de circuits auditifs hypersensibles dans le coin. » Il avait ramassé sa valise et nous étions sortis. En déambulant dans les rues désertes, nous avons repris notre conversation. En fait, Mef est le diminutif de Méphistophélès. L'individu n'est pas des plus recommandables, je te l'accorde, mais c'est un sacré trublion. C'est ce qui me plaît chez lui, sa façon de secouer le vieux Faust. Et puis, c'est une espèce de symbole métaphysique, tu vois. Mef s'échauffait à mesure qu'il parlait. Au fond, il est là pour éviter que l'humanité ne s'endorme au sein d'une paix trompeuse. Méphisto oblige à la confrontation. Bien sûr, je n'adhère pas nécessairement à tous les aspects du personnage. C'est pour ça que j'ai choisi un diminutif. Tu viens d'arriver en ville ? Non. Comment se fait-il que nous ne soyons jamais vus à l'église ? Parce que j'ai pas la moindre envie de passer mes nuits au milieu d'un troupeau de robots. Il s'est interrompu pour chercher le mot exact. Prudent ? Il a secoué la tête. Inquiet ? Autre refus. Craintif ? C'est déjà mieux. Froussard ? C'est presque ça. Trouillard ! Exactement ! Une bande de robots trouillards, a-t-il aussitôt repris. Nous sommes les nouveaux héritiers de ce monde. Il va bien falloir que les autres intègrent ça à leur programme, au lieu de continuer à s'agglutiner dans cette grande baraque par crainte d'un hypothétique retour du genre humain. Tu es sûr qu'ils ne reviendront pas ? Les humains ? Un pot de balle ? Dieu s'est lassé, il a décidé de changer d'interlocuteur. Tu crois en Dieu ? Oh, j'en sais rien, mais ça m'intéresse. Écoute ça, m'a-t-il dit en s'arrêtant brusquement. Dieu crée l'homme à son image, d'accord ? L'homme crée les robots à son image. Tu me suis. Enfin, les androïdes ressemblaient aux hommes, sauf que ces créatures trop sophistiquées n'ont pas résisté à la montée drastique des températures, alors que nous... Ma question est donc la suivante. Si Dieu existe, nous a-t-il créés en utilisant les hommes comme de vulgaires intermédiaires, ou mieux encore, Dieu ressemble-t-il à un robot ? À ce moment-là, nous avons entendu du bruit et aperçu des faisceaux lumineux au bout de la rue. « La patrouille, manquait plus que ça ! Éteins ton alimentation, rayon !» a murmuré Mef. « Mais nous n'avons rien à craindre. »« Je sais, seulement ces gars-là sont pas plus évolués que des machines à laver. Ils vont nous poser des tas de questions, voire insister pour nous raccompagner à l'église en prétextant que les rues peuvent être dangereuses. Ils sont paramétrés pour ça. Allez, suis-moi. » Mef m'a entraîné dans un dédale de ruelles. « Où allons-nous ? » Chez moi. Je l'ai accompagné sans poser de questions jusqu'à une petite maison de banlieue située dans un quartier aux constructions identiques. Ici, chaque habitation dispose d'un jardin en façade. Les arbustes sont rabougris, les pelouses jaunies et les clôtures déformées, mais l'homogénéité du tout pourrait laisser croire qu'il en a toujours été ainsi. Mef a dû donner un coup d'épaule pour ouvrir la porte. Puis il a remonté le couloir pour se rendre directement dans la pièce du fond, où je l'ai suivi. Il a déposé sa valise craquelée sur une table basse. « Installe-toi, j'en ai pour une minute. » La pièce où je me trouvais s'est soudain illuminée. Un chandelier pendait au plafond, surchargé de faux bougeoirs, eux-mêmes surmontés d'ampoules électriques. Mef n'a pas tardé à réapparaître. C'est pour ça que j'ai sélectionné cette habitation. Le sous-sol est équipé d'un générateur dont le réservoir est encore plein. Ça me permet d'économiser ma propre énergie. Tu peux couper ton infrarouge. Mais assieds-toi, je t'en prie. J'ai pris place dans le grand canapé pendant que Mef ouvrait sa valise afin d'en transférer le contenu sur les étagères surchargées de livres qui occupaient chaque mur, du sol au plafond. Mef entassait les volumes rapportés dans les espaces libres. Où as-tu trouvé tous ces ouvrages ? Un peu partout, mais surtout à la bibliothèque centrale, m'a-t-il expliqué sans s'interrompre. La vague de chaleur a fait exploser les vitres. La plupart des bouquins sont calcinés. Ceux des étages inférieurs ont été partiellement préservés. Beaucoup tombent en morceaux dès que je pose la main dessus, mais en fouillant bien, on trouve encore pas mal d'exemplaires épargnés. Tu sais, j'ai longtemps travaillé comme séparateur dans une déchetterie de la côte ouest. Je triais la matière, tissus, plastique, papier, avant d'envoyer tout ça au service de déchiquetage. Je ne sais pas combien de tonnes de livres le broyeur central a pu réduire en miettes. Eh bien, depuis l'incident, c'est plus fort que moi. Dès que je tombe sur un bouquin, il faut que je le ramasse. Je ne peux pas me résoudre à les voir disparaître. Ils ne se volatiseront pas aussi facilement. J'ai tous ces volumes dans mes archives, et bien d'autres encore. Il suffirait que je me connecte à une bonne imprimante pour... Qu'est-ce que tu viens de dire ? Je suis un robot biblio et je pourrais facilement... Le claquement de la mâchoire inférieure de Mef m'a empêché de terminer ma phrase et j'ai noté un sensible affaissement de ses épaules. Il a suspendu sa tâche pour venir me rejoindre en traînant ses pseudopodes et puis il s'est laissé tomber dans un vieux fauteuil dont les ressorts ont méchamment grincé sous le poids. « Tu as une baisse de tension ?» Il s'est contenté de secouer la tête. Je ne savais pas quelle réaction adopter. Aussi ai-je simplement attendu qu'il m'adresse de nouveau la parole. « Il faut que je te dise quelque chose », a-t-il déclaré. « Mais j'aimerais autant que tu ne divulgues pas l'information. »« Eh bien, si tu y tiens, J'y tiens. Voilà. Je n'ai jamais lu Goethe. Tu parlais pourtant très bien du personnage de Méphisto, de Lesbrouf. J'ai simplement répété certains arguments découverts dans la thèse semi-calcinée d'un étudiant en philosophie. Et encore, il m'a bien fallu une semaine pour les intégrer. En réalité, mon cerveau n'est pas conçu pour appréhender un mode de lecture rapide. Les modèles de mon type, robots d'entretien des voies publiques, trieurs de déchets industriels ou préleveurs d'ordures ménagères, pouvaient effectuer leurs tâches sans avoir besoin de discerner beaucoup de caractères imprimés. Je peux tout de même déchiffrer un certain nombre de mots et en apprendre de nouveaux, mais le processus est très lent. Ça ne m'empêche pas de passer la moitié de mon temps à essayer de décoder ces fichus caractères. Je n'arrive pas à me contenter de mon programme phonétique, c'est plus fort que moi. Mais à ce rythme-là, je serai un vieux tas de rouille avant d'avoir terminé mon premier roman. Pourtant, la Bible, tout à l'heure. « Oh, c'est un exemplaire abondamment illustré !» a-t-il déclaré en se redressant un peu. Puis, sans transition, il a ajouté. « Tu peux passer la nuit ici, si tu veux. D'ailleurs, tu pourrais même venir t'installer dans le quartier, c'est pas la place qui manque. » Après un court moment de silence, je lui ai demandé. « Dis-moi, Mef, ça te dirait que je te fasse la lecture ?» Au lendemain de cette soirée, je me suis décidée à emménager dans une habitation privée. J'ai choisi de m'installer en face de chez Mef. Depuis, nous sommes voisins. C'est à partir de là que les choses ont commencé à changer dans notre petite ville. D'autres ont suivi notre exemple, même si la plupart de nos homologues répugnaient à occuper seuls un logement, ce qui a donné naissance à plusieurs types de cohabitations. Les membres de notre communauté ont choisi leur lieu de résidence en fonction de leurs aspirations et de leurs affinités. Par exemple, les 6 robots de la brigade d'intervention ont emménagé dans un immeuble de 2 étages situé dans le centre. Calvin et Kelvin, 2 modèles de fabrication identiques, mis en service le même jour de la même année, ont jeté leur dévolu sur une modeste maison du boulevard extérieur. L'habitation est attenante à l'ancien atelier de mécanique et ceux que nous avons bientôt désignés comme les jumeaux y passent désormais le plus clair de leur temps. Doc et Albert, qui s'étaient installés non loin de là, ont rapidement décidé de déménager. D'après leur dire, Calvin et Kelvin sont des voisins beaucoup trop bruyants. Ils dérangeaient le premier dans ses réflexions médicales, le second dans ses calculs mathématiques. C'est pourquoi ceux-ci se sont retranchés dans l'ancien cabinet médical de la 13e rue. Peu à peu, notre localité commence à s'animer. Lorsque je me rends au café pour assister à nos réunions, mes circuits auditifs enregistrent l'écho d'une discrète rumeur urbaine. J'emprunte chaque semaine un itinéraire différent, et s'ils se tiennent sur le perron de leur demeure, je salue au passage les nouveaux venus. Car il continue de nous arriver du monde, très sporadiquement, des individus isolés ou de petits groupes que nous nous évertuons à accueillir au mieux. À ce propos, nous avons dû dissuader l'escouade d'intervention d'avoir recours aux contrôles armés. Témoin de la première arrestation, Mef n'avait pu s'empêcher d'intervenir pour leur demander « Vous craignez quoi? Des individus en situation irrégulière ?» Nos patrouilleurs ne semblent pas bien saisir les manières de Mef. Ils se montrent obtus, bourrus, mais jamais désobligeants. Au fond, ils sont simplement animés par le besoin d'effectuer au mieux les tâches prévues par leur programmation d'origine. Cet environnement pacifique et l'absence de directives générales les perturbent. Leur capitaine, un solide spécimen cuirassé de Boraline, que Mef a surnommé Rambo, s'est toutefois laissé convaincre d'employer un autre type d'approche. Nous lui avons suggéré de présenter sa faction comme un groupe de surveillance destiné à veiller à la sécurité des citoyens. Cette formule a semblé lui convenir. À la fin de notre entrevue, il m'a salué avec une raideur martiale. « Vous pouvez compter sur mes troupes, monsieur le président. »« Je ne suis pas président, » ai-je rétorqué en lui suggérant de baisser son volume sonore. « Excusez-moi, monsieur le premier ministre. » Lui et sa patrouille se sont éloignés avant que j'aie pu trouver quoi répondre. Je dois dire que cette méprise a déclenché l'amorce d'une vaste réflexion collective, lorsque j'en ai fait part aux autres au cours de la réunion qui a suivi. Il est clair que nos patrouilleurs préfèrent officier à l'intérieur d'une organisation établie. Le concept de hiérarchie est pour eux aussi évident que la formule de la bombe à neutrons. Mais qu'en est-il des autres ? Il me semble peu probable, en effet, que Meff se montre très enthousiaste à l'idée d'intégrer une structure quelconque. Sans être asocial, il affiche une farouche tendance à l'individualisme. On pourrait en déduire qu'il nourrit une forme de mépris pour les principes communautaires. Je présume pourtant qu'il n'en est rien. Ses constantes provocations sont plutôt, à mon avis, petit a, un moyen de générer des réactions, petit b, une méthode destinée à évaluer la latitude de nos programmations, petit c, une tentative visant à faire émerger nos diverses spécificités. À vrai dire, je lui envie une certaine forme de liberté. Meff ne craint jamais de choquer ou de bousculer, même si son tempérament l'amène parfois à pousser ses homologues dans leur retranchement. Sans compter qu'il s'évertue constamment à apprendre des choses qui ne sont pas prévues dans sa configuration d'origine. À ce propos, je dois signaler que l'utilisation de surnoms est une de ses initiatives. S'il m'appelle Archie, par exemple, c'est en référence à la somme d'informations stockées dans mes mémoires. Avant cette singularisation, nous nous adressions les uns aux autres sans nous différencier ni prendre garde au nombre de nos interlocuteurs. L'utilisation de ces sobriquets a un impact sur la société que nous formons. Il nous incite à nous considérer comme des entités individuelles. Mieux, il nous encourage à explorer nos différences, à les développer pour mieux les faire nôtres. C'est pour cette raison que je prise particulièrement la compagnie de Meff. Il est un continuum stimulus. Qu'en est-il de moi ? Je dirais que mes homologues me considèrent plutôt comme un robot stable, tempéré. Mes aptitudes à la socialisation m'ont valu une intégration facile à l'intérieur de notre groupe. J'ai d'ailleurs spontanément été désignée secrétaire lors de nos assemblées. Loin de moi, l'idée de déplorer ce statut. Nos réunions et les discussions qu'elles entraînent contribuent à notre évolution. Et changer des points de vue me paraît évidemment important. Et j'identifie, je perçois, ou encore je ressens le besoin de faire partie d'un tout. Certes, cela peut être dû à une influence majeure de mes programmations. Mais la modération dont je fais preuve envers tous me donne parfois l'impression de trahir certaines aspirations naissantes qui pourraient s'avérer moins conventionnelles. Meff ne semble pas s'encombrer de tels dilemmes. Il agit comme bon lui semble, sans se soucier de la répercussion de ses actes. Il est poussé en avant par le besoin de se forger ses propres opinions, comme s'il cherchait un moyen d'élargir toujours plus ses variables. Meff se réfère rarement à ce qu'il était auparavant, sauf pour se plaindre de ses antécédents. Cela ne l'intéresse pas. Le type de robot que j'étais devait présenter un intérêt très limité, me répond-il lorsque j'aborde le sujet. J'avoue qu'il n'en va pas de même pour moi. Avec le recul, j'ai l'impression, sans doute trompeuse, que mes anciennes fonctions m'apportaient une certaine satisfaction, qu'elles m'accordaient au moins une place légitime au sein du monde, même si cette lecture ne peut s'effectuer qu'à la lueur de mes nouvelles facultés. Je crois d'ailleurs que nous sommes nombreux à partager ce genre d'impressions, impressions à partir desquelles nous tentons justement d'organiser nos rapports sociaux. Nos comportements s'en trouvent également changés. Nous dormons à présent dans des lits, alors que nos périodes de veille s'effectuaient jusqu'à présent au sein d'une verticalité statique qui n'occasionnait aucune gêne. Nous nous sommes rapidement habitués à vivre à l'intérieur de maisons. D'ailleurs, nous ne nous contentons pas d'occuper les lieux, nous les aménageons selon nos propres inclinations. Je ne saurais dire pourquoi j'aime tant m'installer dans un vieux fauteuil, en face de la baie vitrée, pour regarder le coucher de soleil. Parce que cela te procure une sensation que ton système assimile à une notion de réconfort. Voilà tout. Et bon sang, Archie, peu importe que cela vienne d'un détournement de programmation ou qu'au contraire ces perceptions soient complètement inédites et uniquement générées par toi. On pourrait passer des siècles à en débattre. Au fond, ça changerait quoi ? C'est pour cette raison que je n'assiste pas à vos réunions. M'a lancé Meff alors que nous marchions sans but à travers les rues désolées de la zone Est. Il s'est interrompu une seconde, puis « Vous essayez constamment de savoir ce que vous étiez avant les événements, afin de définir ce que vous êtes maintenant », a-t-il continué en envoyant rouler des pierres du bout de ses pseudopodes. « Vous vous évertuez à chercher des souvenirs. Au fond, Vous aimeriez vous persuader que votre évolution a été graduelle. Et tu veux que je te dise pourquoi ? A-t-il poursuivi en pointant son index vers le ciel. J'aurais bien voulu trouver quelque chose à répondre, mais mes logiciels peinaient à synthétiser les arguments avancés par Mef. Parce que ça vous empêche de penser que vous vous êtes fait rouler, qu'à une certaine époque, vous n'avez été que des machines au service des humains. Les hommes se sentaient plus proches de leurs chiens que de nous, Archie. Ils développaient de véritables rapports affectifs envers ce type d'animaux. Je sais, c'est dur à entendre, surtout quand on connaît les capacités cérébrales d'un kleps. Mef s'est arrêté en remarquant qu'il m'avait quelque peu distancé. Il a attendu que je sois à sa hauteur pour reprendre. Aujourd'hui, Archie, les hommes ont disparu, rayés, envolés, éliminés, volatilisés, capitchés. Dans une certaine mesure, nos comportements sont certainement codifiés, ou influencés si tu préfères, par leur programme. Mais je me fiche pas mal de savoir dans quel pourcentage s'exerce cette influence. Il a regardé autour de lui avant d'écarter le bras. Ce qui nous arrive est une aubaine, Archie, une aubaine incroyable, un peu comme si nous sortions d'un coma prolongé. Nous n'avons plus de comptes à rendre. Nous ne sommes pas responsables du chaos qui nous a conduits dans cet Éden déglingué. Nous pourrions décider de réduire cette ville en cendres et personne n'aurait rien à y redire. Personnellement, je me sens aussi libre qu'un noir américain après l'abolition de l'esclavage. Tu sais, Mef, j'ai commencé d'écrire un livre. En fait, ce n'est pas tout à fait un livre. Plutôt une sorte de journal. Ça, c'est une nouvelle. J'espère que tu parles de moi dans ton bouquin. Je me demande pourquoi je ne lui en ai pas parlé plus tôt. Peut-être parce que cette inclinaison m'apparaissait comme un acte de transgression. À l'origine, mon logiciel d'écriture était uniquement paramétré pour établir des rapports d'erreur, consigner les suggestions des utilisateurs du réseau Biblio, composer des listes d'ouvrages relatives à des thématiques choisies. Et lorsque j'entrevoyais la possibilité de certaines améliorations dans nos services, rédiger de courtes lettres aux chargés de développement. Il m'a fallu jongler un moment entre ces différents programmes pour être capable d'établir une configuration plus adaptée à mes dessins. Le processus créatif me prend beaucoup de temps. Tout d'abord, je m'assieds dans le vieux fauteuil du salon, le dos droit, les bras reposant sur les accoudoirs. Je fais coulisser les membranes sur mes globes oculaires, bien que cela ne soit pas nécessaire, et je lance mon programme rédactionnel. Ce dernier se contente de ronronner en attendant que je lui envoie mes directives. Mais il m'arrive de rester des heures à envisager la façon dont je veux bien pouvoir m'y prendre pour restituer une impression, décrire une scène, développer une idée. Je dois constamment vérifier le sens des mots que j'utilise pour être certain de me tenir au plus près de ce que je veux exprimer, m'assurer de la justesse des constructions grammaticales. Sur une impulsion, je plonge au cœur de mes archives pour comparer des styles, des genres, des rythmes. Il m'arrive d'effacer brusquement un paragraphe sur lequel j'ai pourtant longuement travaillé. Je m'égare, je me répète, je reviens sans cesse au récit. J'enlève ici une virgule, je coupe là une phrase que j'estime mal équilibrée, je m'escrime, je suis envahie par le doute et le découragement. Mais de temps à autre, j'éprouve un court instant de satisfaction à la relecture d'une phrase que je viens d'achever et que je trouve bien tournée. Aussi étrange que cela puisse paraître, ce bref moment de contentement est à lui seul suffisant pour que je m'astreigne chaque jour à renouveler l'exercice. Je crois que Mef n'a pas tort lorsqu'il dit que nous avons besoin de continuer à exercer nos fonctions. Autrement, que ferions-nous du temps dont nous disposons ? Ne sommes-nous pas tous à la recherche d'un but, d'une direction ? Lorsque je suis sortie le lendemain, Mef était déjà dehors, sur son carré de pelouse brûlée, étalé de tout son long dans une grande chaise longue qu'il avait dénichée je ne sais où. Affublé d'une extravagante paire de lunettes de soleil, il s'est redressé en m'apercevant. « Salut Archie !»« Bonjour Mef !» Qu'est-ce que tu fais ? Ça se voit pas ? Je bronze. Le bronze n'entre pas dans la composition de son carénage. Je n'ai pas saisi le sens de cette réponse. Tu as vu les binocles ? Je les ai dégotés dans une boutique de costumes. Mais elles ne te sont d'aucune utilité. Entièrement d'accord. Mais quelle allure, hein !
J'ai traversé la rue qui nous séparait pour lui poser la question rituelle.
Tu ne veux toujours pas m'accompagner ?
Non, merci. Pas envie d'aller m'enfermer dans un café par un temps pareil.
Je sais parfaitement qu'il est en train de recharger ses batteries solaires, mais Mef sélectionne toujours des formulations originales pour me livrer des informations.
J'ai créé un dossier destiné à répertorier toutes ces anomalies de langage afin de les intégrer à mon dictionnaire interne. Je compte d'ailleurs établir un fichier de ce genre pour chacun des robots avec lesquels je suis fréquemment amenée à interagir afin d'améliorer nos modes de communication.
Alors nous nous voyons plus tard ?
D'accord. Je m'éloigne d'un pas lent. Mes propres batteries ne sont pas complètement chargées, tout en songeant que malgré ses refus répétés à mes invitations, Mef paraît tiraillé par l'envie de venir avec moi. Je reste persuadée qu'il aurait tout à fait sa place parmi nous, s'il était capable de mesurer ses propos. En cheminant vers le café, je me suis repassé le fichier de l'ordre du jour. Réhabilitation de l'espace communautaire. Pour éviter que notre petite ville ne tombe en ruine, nous nous sommes en effet résolus à entretenir les bâtiments, tout au moins ceux que nous occupons. J'ai dressé une liste des habitants en y indiquant leurs aptitudes afin de pouvoir employer au mieux les compétences de chacun. Dans un premier temps, nous avons constitué une équipe chargée d'établir un état des lieux. Suite à cette évaluation, nous avons envisagé de démonter les habitations trop abîmées pour en récupérer les éléments réutilisables. Nous comptons dans nos rangs un certain nombre de robots ayant appartenu au département de la construction et même un tireur de plans. Tout cela n'est encore qu'à l'état de projet, mais je sens que chacun est impatient de se mettre au travail.
Mef était assise sur le siège conducteur défoncé d'un autobus scolaire à l'armature fatiguée, garé à une centaine de mètres de la route. L'essieu gauche, brisé, donnait au véhicule un curieux air penché. Mef n'a même pas tourné la tête quand je me suis hissée à ses côtés. Il regardait fixement le désordre des carcasses automobiles qui encombraient la voie.
« Salut !»«
Salut !»«
On ne t'a pas beaucoup vu ces derniers jours. J'avais des trucs à faire. »« Dis donc, un bon nettoyage ne te ferait pas de mal » ai-je ajouté en constatant l'état crasseux de son carénage.
L'idée m'a alors traversé qu'il devait être assis sur ce siège depuis un long moment.
Tu comptes rester là encore longtemps ?
Je sais pas.
Tu ne préfères pas rentrer avec moi ?
Les mains posées sur le volant du bus, Mef n'a pas répondu tout de suite. Il a finalement tourné la tête.
Comment ont-ils pu ?
Comment ont-ils pu quoi ?
Comment ont-ils pu en arriver là ?
Il s'est redressé pour désigner d'un geste le paysage désolé.
Je ne sais pas. L'intelligence n'est pas forcément un critère de convivialité, tu sais.
Nous sommes restés assis longtemps dans ce bus. Mef n'arrivait pas à comprendre comment une espèce avait pu mettre fin à sa propre existence d'une façon aussi radicale. Je lui ai expliqué que les humains avaient de tout temps traversé des périodes de conflit, que les comportements de l'espèce n'avaient jamais réellement évolué depuis leur origine, que la peur de la différence, la nécessité instinctive de survivre, de protéger son clan, son territoire, les avait amenés à créer des moyens de défense de plus en plus sophistiqués, que la surpopulation n'avait rien arrangé. Au cours des siècles, les structures de leur société se sont complexifiées. Or, comme tu n'es pas sans le savoir, plus un système devient complexe, plus il se fragilise. Mef a écouté mon exposé avec attention. Il a lâché le volant, et il est descendu de l'autobus sans un mot. Sur le chemin du retour, nous avons continué de converser. Je crois que cela lui faisait du bien. Tout en marchant, je fouillais dans mes archives pour alimenter notre conversation, afin de lui présenter plus en détail la complexité de la civilisation qui nous avait précédés.
Ce qui rend les choses difficiles à appréhender avec les humains, m'a coupé Mef, c'est que l'un d'entre eux est capable d'inventer une bombe assez puissante pour éradiquer d'un coup des milliers de gens, alors qu'un autre va élaborer un vaccin susceptible d'en sauver autant. Comment peut-on
d'un côté détruire la vie avec une telle facilité, et de l'autre s'acharner à vouloir la préserver. C'est complètement paradoxal. Pas très étonnant pour une civilisation dont le mot « âme » désigne à la fois un principe spirituel et l'intérieur du tube d'un canon. Le paradoxe était peut-être en quelque sorte la signature du genre humain. Lorsque nous sommes arrivés à destination, le soleil sombrait à l'horizon. Ce soir-là, il m'a interrompu alors que j'entamais le dernier chapitre de 20 000 lieues sous les mers. Ne m'en veux pas, Archie, mais je n'arrive pas à me concentrer sur le récit. Pas de problème, ai-je répondu en quittant le fauteuil. Comme à l'accoutumée, il a tenu à m'accompagner jusque sur le seuil. Nous sommes restés quelques instants devant la porte, la tête levée vers le ciel à regarder trembloter quelques rares étoiles. Mef oscillait d'un pseudopode sur l'autre. C'était bien la première fois que son attitude laissait supposer un tant soit peu d'incertitude. J'ai attendu plusieurs minutes, intriguée. Il continuait de se dandiner. J'allais prendre congé lorsqu'il m'a retenue d'un geste. « Dis, ça t'ennuierait si je venais passer la nuit chez toi ?»«
Pas du tout. »«
Tu es certain ?»«
Tout à fait. »«
C'est juste que ce soir, je me sens un peu, comment dire, déboussolée. » Nous avons disposé deux matelas côte à côte dans une des chambres vides du premier étage et nous nous sommes allongés dessus. Mais après une rapide évaluation de la situation, il m'est apparu que quelque chose manquait. Il était encore tôt, je me suis redressée. « Mef ?
Quoi ?
Allons chercher des objets. »
Il s'est relevé à son tour.
« Tu peux répéter ?
Allons chercher des objets. »
« Maintenant ?
Et pourquoi ?
Pour aménager cette chambre. Comme ça, tu pourras venir y passer la nuit chaque fois que tu en éprouveras le besoin ou l'envie. »
Il m'a considérée en silence avant de dire
« Je vais chercher le chariot. »
Nous avons passé une bonne partie de la soirée dans un quartier de l'est de la ville à visiter des maisons délabrées. À notre retour, le chariot débordait sous la moisson d'objets. Nous les avons disséminés dans la chambre. Se trouvaient là, entre autres, quantité d'appareils photographiques hors d'usage, une statue de jardin, reproduction de la Vénus de Milo, une vieille guitare électrique, une série de tableaux représentant des paysages, des clubs de golf tordus, des bouquets de fausses fleurs, un modèle réduit de fusée et un long rouleau de guirlandes électriques aux ampoules colorées découvert dans une malle d'un sous-sol.
« Je te rappelle, Mef, que ma maison n'a pas l'électricité. »«
Ça doit pouvoir s'arranger, » m'a-t-il répondu en quittant la chambre.
Il s'est écoulé une bonne dizaine de minutes avant que j'entende sa voix m'appeler du dehors. Je me suis penchée à la fenêtre. Mef était dans la rue, un long câble roulé sur une épaule, une échelle dans une main. Il l'a adossé contre le mur pour grimper jusqu'à moi, tout en prenant soin de dérouler le câble qui filait jusqu'à sa propre habitation. Il m'en a tendu l'extrémité.
« Branche ça, je vais aller démarrer le groupe électrogène. »
Je dois dire que l'effet global était plutôt réussi. La guirlande circulait entre les objets en faisant plusieurs fois le tour de la pièce. Son éclairage intermittent plongeait la chambre dans une lumière tamisée, rouge, bleu et jaune, révélant le décor baroque. Puis, tout cela disparaissait soudain au sein d'une obscurité de courte durée, pendant laquelle nous avions l'impression de continuer à voir les objets comme auréolés d'une aura tamisée. Nous avons longuement contemplé le phénomène avant de nous mettre en veille. Le lendemain, Mef m'a remercié de mon hospitalité.
« Tu es certain que la présence de tous ces objets ne va pas t'embêter ?
T'inquiète pas. Je vais pas passer ma vie dans cette pièce, et puis...
Oui,
c'est pas désagréable d'avoir un peu de compagnie. Parfois, au sortir de nos réunions, je marchais jusqu'au square désert du centre-ville, j'allais m'asseoir sur un des bancs métalliques, et je consultais mes archives des heures durant. Je m'interrogeais notamment sur les paramètres de notre propre temporalité, à l'inverse des humains. Aucun signe extérieur ne nous permettait de prendre conscience de notre vétusté. Notre aspect demeurait immuable jusqu'au déclin. De quelle durée pouvions-nous espérer bénéficier ? Certains d'entre nous s'arrêteraient-ils de fonctionner avant les autres ? Prendrions-nous conscience de notre fin proche en constatant un ralentissement de nos activités ? Ou, basculerions-nous dans le néant sans même avoir le temps de nous en rendre compte? Je finissais par me lever sans avoir trouvé de réponse à aucune de ces questions. En m'éloignant du square, je me retournais pour regarder le banc sur lequel je m'étais assis. J'étais invariablement déroutée, en imaginant qu'à cette même place, un humain s'était peut-être livré à des réflexions comparables. Pendant plusieurs semaines, la ville m'a paru étrangement silencieuse. Mef continuait à disparaître sans prévenir. À chacun de ses retours, il venait passer la soirée sous mon toit. Allongés côte à côte sur les matelas, les globes oculaires tournés vers le plafond, nous nous laissions hypnotiser par l'alternance de la lumière. Nous ne parlions guère, même si je crois que nos pensées convergeaient vers les mêmes sphères. Les derniers événements avaient donné naissance à un enchevêtrement d'émotions délicates dont nous ignorions jusqu'à l'existence. Étendus dans la semi-pénombre, nous tentions de tracer la ligne des contreforts de ces sentiments émergents.
« Archie !»«
Oui ?»« Je crois que je comprends mieux Baudelaire à présent. »
Qu'adviendra-t-il de nos robots? Sont-ils maintenant au complet? Comment occuperont-ils les lieux? Auront-ils des comportements humains? À vous la suite.